68 344 prisonniers, 68 344 enfermés mis en cage, 68 344 individus qui subissent chaque jour les insupportables humiliations, menaces, insultes, harcèlement, tabassage en règle, suicide. 68 344 individus brisés, cassés, broyés, absorbés par la prison. La prison tue tous les jours, un suicide tous les trois jours, et tous les jours la mort lente de la torture blanche, la mort lente de la torture physique, la mort lente de la torture mentale. 68 344 vies volées, arrachées, sans compter celles des amis, parents et proches. 68 344 vies volées, arrachées dans le silence carcéral pour permettre à des milliards d'autres vies d'être aussi volées, arrachées, détruites dans les exigences de la production, dans les exigences de la soumission. 68 344 pris en otage pour le bon fonctionnement d'un système qui veut que certains se gavent pendant que d'autres s'épuisent. L'enfermement joue un rôle social de repoussoir, l'enfermement produit une peur nécessaire au maintien de la société. Bien plus qu'une simple punition, qu'une simple répression, c'est un ciment nécessaire pour permettre la continuation de ce racket organisé par les patrons et légalisé par les États. Il n'y a pas d'enfermement à visage humain, une cage dorée reste une cage. Ils peuvent y mettre tout le confort imaginé. Il y aura toujours ces portes fermées, ces matons pour dire quoi faire, où aller, ces marches forcées dans des promenades nues au ciel guerriagé, ces putains de miradors comme seul horizon, putain de barreaux, putain de chaînes, putain de murs. Aucune réforme de la prison ne pourra la rendre supportable. Insupportable, c'est d'être enfermé. Alors détruire l'ignoble machine mangeuse d'hommes avec la société qui l'a produite.
Tous ces murs invisibles qui au final me laissent seuls. Fantasmatique, la peur de finir dans un trou, ce qui de manière logique maintiendra bien un genou de la gestion humaine psychique. Influe nerveusement sur ma sûreté physique. La zonce comme carotte pour mieux reculer, toujours les mêmes pour l'attendre et t'empêcher d'avancer. La zonce comme carotte pour mieux reculer, toujours les mêmes pour l'attendre et t'empêcher d'avancer. La zonce comme carotte pour mieux reculer, toujours les mêmes pour l'attendre et t'empêcher d'avancer.
End des scènes, end des chaînes, rageoire, mesdames et messieurs. Alors, bienvenue pour la nouvelle émission. Aujourd'hui, on va avoir un espèce de pot pourri pour commencer, avec différentes infos, comme vous en avez l'habitude. Et on aura aussi aujourd'hui Elliot Bess comme invité, qui va nous parler un peu du débat, entre autres, qui s'est passé sur la question d'Action Directe samedi soir à l'Équitable Café, et de surtout ce qui s'y est peut-être pas dit ce soir-là. Mais on va commencer par des brèves.
Et donc voilà, donc première brève, donc la prison tente de tuer les individus, mais il y a des fois où ça se rebelle. Et en Belgique, là, le 19 novembre, il y a eu une nuit d'émeute à la prison d'Andenne, où les prisonniers se sont mutinés en solidarité avec d'autres prisonniers de la prison de Forest qui avaient subi des violences. Et donc là, c'est 200 détenus qui se sont rebellés, qui ont refusé de gagner leur cellule et qui ont saccagé plusieurs sections de l'établissement. Voilà, donc certains se mutinent, d'autres s'évadent. Et il y a eu 800 papiers qui se sont évadés du centre de rétention et du centre de rétention de Palaiseau dans l'Essonne. Et on leur souhaite une bonne cavale.
Et pour rebondir là-dessus, par rapport à la Belgique, il faut aussi dire que ça fait 2 ans qu'il y a des gens qui se battent dans les tôles. Et aussi des gens qui se battent à l'extérieur pour essayer de casser les murs d'une manière ou d'une autre. Et notamment ces dernières semaines, énormément d'arrestations et donc de camarades qui sont incarcérés, comme en France, en Italie, un peu partout ailleurs, sous le coup de la loi antiterroriste. Et voilà.
Et donc des évadés des centres de rétention et de la rogne aussi dans les centres de rétention, notamment en Italie. Où depuis qu'a été allongé le temps de détention, tout le nombre d'actions se multiplie, des grèves de la faim, des automutilations, des refus de rentrer en cellule, des destructions, tous les moyens d'action qu'on peut avoir quand on est enfermé entre quatre murs. Et donc voilà, depuis il y a eu des grosses semaines d'action dans les centres de rétention en Italie.
Et pour continuer donc sur les sans-papiers, juste pour rappeler que ça fait un mois maintenant, voire un peu plus, qu'il y a 5 000 sans-papiers qui sont en grève, donc 100 000 sans-papiers qui ont un boulot, qui bossent, qui sont bien sûr sont pas déclarés, qui ramènent beaucoup de thunes à l'État et, vu le prix qu'ils coûtent, et qui sont donc en grève totale. On n'en parle pas beaucoup, on commence à peine à en parler depuis aujourd'hui, qui donc qui ont aussi beaucoup de problèmes avec la police, qui a beaucoup d'arrestations, et voilà, que des gens luttent en ce moment pour dénoncer un peu toute cette politique
et donc,
de l'immigration des frontières.
Voilà, et en même temps qu'il y en a qui luttent, il y en a toujours plus qui se font enfermer. Et notamment, on a à nouveau et encore des résultats des procès qui ont suivi la manifestation au Tiantan de Strasbourg. Et donc là, il y a un Allemand et un Russe qui ont été poursuivis pour avoir mis le feu à un bâtiment des douanes. Ces fameuses douanes qui envoient ensuite les gens, entre autres, en centre de rétention. Et donc, ils ont été condamnés à 4 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Donc, voilà, et ben on leur souhaite la révolte là où ils pourront en avoir.
Ainsi qu'à tous les enfermés.
Ça va être, pour les brèves, un peu le tout.
Non, on a oublié quelque chose. On a oublié quelque chose. C'est une affiche qu'on a trouvée sur Internet, qui est un texte qui a été écrit en solidarité avec des compagnons incarcérés en Belgique. Et qui paraîtront donc le 25 novembre, et il y a un rassemblement qui est prévu devant le tribunal de Gand. Donc je vais vous lire le texte d'appel à ce rassemblement. Tout ne suit pas son cours normal. Tout suit son cours. Chaque matin, des millions de personnes se traînent au boulot où la plus grande partie de la journée, elles sont humiliées, abruties et exploitées. Sur les écrans et dans les haut-parleurs, les médias assènent les mots des patrons, des politiciens et des spécialistes. Des sans-papiers sont enfermés dans des camps et déportés. Certains vont chercher l'argent où ils se trouvent en abondance et ils se font prendre, sont condamnés et enfermés en prison. Tout suit son cours. L'existence de toujours plus de personnes se réduit à des calculs. Calculer s'il y aura assez de fric pour payer le loyer, compter combien de jours et d'heures encore à rester enfermés dans les classes, les usines et les prisons, avoir les yeux perdus dans les flux de chiffres pour comptabiliser à quel point cette planète est polluée, combien de gens meurent ou à cause du boulot, combien de réfugiés périssent aux frontières ou dans les commissariats, calculer le code pénal à la main et se convaincre que le prix de la révolte est trop haut. Mais des personnes rompent avec le cours normal des choses et des calculs permanents. Celles qui n'attendent plus pour se révolter contre tout ce qui les détruit. Celles qui donnent un coup dans la gueule de leur patron. Celles qui se rebellent contre les matons de leur existence et boutent le feu à l'atoll où elles sont enfermées. Celles qui ne baissent pas les yeux devant un uniforme, un costume, une soutane. Le 6 octobre 2009, plusieurs associations d'étudiants fascistes organisent un débat à la haute école de Gand. Protégés par un dispositif policier impressionnant, ils professent leur message de haine et de l'autorité. Cependant, peu après le débat, 4 chefs fascistes sont rossés, tandis que dans la nuit, plusieurs feux sont allumés au centre-ville. Pendant qu'ici et là, des poubelles partent en fumée, le feu est bouté à des voitures, à des distributeurs de billets, à des chantiers de construction. Le feu endommage un distributeur de la banque Fortis BNP et ailleurs, un distributeur de la banque de la Poste qui gère entre autres les comptes bancaires des prisons et des centres fermés. Les flammes lèchent aussi du matériel sur un chantier de l'entreprise Bézic qui construit actuellement une nouvelle prison pour clandestins à Steno-Corselve. Nombre de vitres du palais de justice où les juges infligent au jour le jour des dizaines d'années d'enfermement sont également brisées. Suite à certains de ces faits, 2 compagnons, Jürgen et Paolo, sont arrêtés. Ils se trouvent actuellement derrière les barreaux en attendant leur procès. Peu nous importe qu'ils soient coupables ou innocents des faits dont l'État les accuse. La langue des juges tombera toujours dans l'oreille d'un sourd pour ceux qui portent la lutte pour la liberté au cœur. Tout ne continue pas à suivre son cours normal quand nous trouvons la détermination de ne plus passer notre vie à genoux. Et cette détermination, ils ne la briseront pas, jamais, pas même avec tous leurs flics, leurs juges et leurs prisons. Liberté pour Jürgen et Paolo, liberté pour tous, contre toute autorité, pour l'anarchie.
Voilà, et on va repartir un petit peu sur un enregistrement qu'on a, qui est un témoignage de détenu, qu'on vous a déjà passé, je crois, sur NDGEN.
Soyez persuadés que j'aurais vraiment voulu être raccourci, tant pour ce que j'ai fait que pour la perspective qui s'ouvrait devant moi. Comment concevoir passer toute sa vie, et ce à 22 ans, entre des murs qui vont se rapprocher de plus en plus avec le temps. L'arbitraire du monde carcéral, les envies suicidaires qui vont se succéder, les fouilles à corps, les coups, les insultes, les frustrations, les humiliations, l'avilissement, les haines qui s'accentuent, les chaînes, les mitards, les humeurs des gardiens, leur besoin de se satisfaire sur nous, leur sarcasme, leurs provocations, les conflits avec les autres détenus, les mensonges, l'hypocrisie et dissimulation en tout genre, la parano, sa misère et celle des autres, les odeurs, les bruits étouffés, les cris, les pleurs, la folie qui guette, la libido qui fout le camp, la masturbation, la bouffe, les maladies, le morbide, les tentations, les cauchemars, les nuits blanches, les déceptions, les amitiés balourdes, les trahisons, l'indifférence amplifiée, l'ostracisme, le racisme des matons et des détenus, la peur au ventre, la honte, les envies de chier, le mal de dents, les maux de tête, les cachets, le pet, la déraison, l'abandon, l'oubli de ce qu'on a été, les revanches avortées, les colères, les punitions, l'infantilisation, l'irresponsabilité, l'assistanat, l'enracinement végétal, les balades en fourgon, les menottes, les instructions, le jugement, les bagarres, l'accusation, les pensées morbides, les 100 000 pas, les regards indiscrets, les illusions d'évasion, le soir, la nuit, la pénombre, l'attente. Combien de sensations ai-je oubliées ? S'apercevoir que se dessine un tel avenir ne demande-t-il pas de réfléchir sérieusement à sa mort ? Qui peut s'en soucier ? Il s'agit de moi et j'en parle à ma façon, en souffrant de ne plus rien regretter, de me dire qu'est-ce qui peut bien m'arriver après tout ça ? J'ai envie malgré tout, et comme le reste ne le regrette pas. Ainsi, c'est donner raison à ceux qui pensent que la peine de mort est inhumaine et contraire à la vie. Pourtant, messieurs, dames, il y a au fond de vos prisons des individus qui auraient souhaité la condamnation suprême pour ne plus vivre le calvaire de se réveiller chaque matin, les yeux bloqués par les barreaux, le ton rivé sur leur cul et les piteuses érections. C'est chaque jour s'enfoncer un peu plus en soi, et si on n'y fait pas gaffe, c'est se bouffer le moral pour n'être qu'un légume qui s'alimente et se vide, pour découvrir finalement qu'on n'est plus rien. Qu'y a-t-il de pire que cela ? N'être rien, ne servir à rien et en avoir conscience. C'est donner un argument de poids à tous ceux qui étaient contre l'abolition de la peine de mort de savourer leur erreur d'avoir pensé cela. L'homme, à se recroqueviller, finit par puer de l'intérieur. Mortifère son peine, son peine, son peine.
Sous-titrage Société Radio-Canada. donc un petit édito de l'envolée numéro 23 en juin 2008. On nous a d'abord appris que la liberté était individuelle. La philosophie des Lumières, l'idéologie bourgeoise, celle de l'économie marchande, a défini la liberté de chacun comme s'arrêtant là où commence celle de l'autre. C'est le fondement du chacun pour soi contre tous les autres, de l'esprit de démerde individuel, de l'assurance aussi vaine que bornée qu'on s'en sort mieux tout seul, et donc de l'impossibilité d'imaginer des solutions collectives. On ne peut pas être libre tout seul. Parler de liberté individuelle est un non-sens. La liberté est un rapport qui, en se développant, détruit les murs de l'individualité. La liberté n'est pas un état personnel. La liberté est un rapport social. Puis on nous a appris que la liberté, ça n'existait pas. Qu'il y avait des libertés, et que les libertés elles-mêmes n'avaient de sens que dans le concept de propriété. Que les rapports sociaux doivent être codifiés par des textes, que chaque geste, que chaque problème ne peut s'exercer ou se régler en dehors de l'arbitrage de l'État. Parler de liberté au pluriel est un non-sens. La liberté n'est pas une marchandise quantifiable. La liberté ne peut être que toute la liberté. Un morceau de liberté n'est pas la liberté. Puis, on nous a appris que la sécurité, l'omniprésence du droit et des lois était la garantie, le pendant de ces libertés. Qu'une vie libre était une vie protégée de toute menace extérieure, que l'extérieur était fondamentalement une menace. Cette sécurité, celle des possédants, petits comme grands, nous la vomissons. Cette sécurité, c'est une mort lente. Non merci.
Io troverò un po' di questo amaro calice, io troverne molto fino a toccare il fondo. Luce spezzata, azzurra, mitra e bracciati neri, i documenti svanti.
ND chaîne, tous les lundis se déchaîne pour l'émission de classe
qu'on appelle au saccage.
Qu'on appelle, voilà. Pour faire bref et les brèves, et on va essayer de pas faire bref parce que d'une façon assez brève, on peut finir très bref. Vite ailleurs. Bref, et donc je vais essayer de vous parler de l'Italie. On vous en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. La situation qui se passe en Italie, malheureusement, elles sont souvent les prémices de ce qui va se passer en France. Un pays avant-gardiste dont on se passerait bien des fois. Et notamment parce que pour ce qui est de la répression, on en a parlé, contre les sans-papiers, ça peut prendre des ampleurs plus que fascisantes. Et aujourd'hui, on peut commencer déjà à dire que ça a vraiment changé là-bas. À savoir qu'il y a une quinzaine d'années, maintenant, il y a quand même une grosse partie d'une certaine intelligentsia d'ultra-droite italienne qui s'était fait griller parce qu'ils avaient un projet de créer une plus belle dictature démocrate. Et ils avaient été donc pour le coup expulsés. Sur ces listes qu'on avait trouvées, il y avait bien sûr le nom de Berlusconi à l'époque, qui n'était pas président, et toute une liste de chacals dont j'ai préféré oublier le nom et que je ne vous citerai pas. Mais depuis, ils sont revenus, ils sont là, ils sont en place, ils sont en Italie. hein, après une émission de télévision intellectuelle, ce qui veut un peu dénoter du désert intellectuel qui peut régner en ce moment en Italie, et d'autres pavanes dans divers rendez-vous de la haute classe et des hautes sphères italiennes. S'ensuit des lois assez étonnantes qui leur permettent de plus en plus de faire ce que ce qui a priori jusque-là en France ne pourrait pas arriver. Ça reste comme inquiétant, notamment là depuis ce matin même, il y a eu des révoltes et des affrontements dans des centres de rétention et avec donc une répression violente dont on essaiera de vous parler un peu plus précisément la prochaine fois. Mais notamment, ils ont passé une nouvelle loi qui permet à ce qu'on appelle là-bas premier syndicat, en fait c'est le maire de la ville, de choisir à un niveau régional les lois qu'il veut. C'est-à-dire que notamment, il peut dire, sous le couvert de la sécurité, on vous en a déjà parlé, de prendre des choix comme on pourrait faire ici, dire que les enfants, à partir de 13 ans, à partir de 10 heures, ils peuvent pas traîner dans la rue, ou empêcher les regroupements de 3 dans un hall d'immeuble. En Italie, ça va encore plus loin. Ils sont capables du meilleur et du pire, notamment dans une toute petite ville côté de Brescia qui s'appelle Cocieflio. J'espère que je la prononce bien. Mais c'est pas grave, tellement ça peut se passer partout. Une opération qu'ils ont gentiment appelée dans la langue de Shakespeare « White Christmas », ça vous donne une vague idée de ce qui va s'y passer, et qui va autoriser dans cette petite ville où il y a très très peu de gens, de arrêter tout ce qui est un peu trop basané, tout ce qui est un peu trop noir ou un peu trop jaune pour les périodes de Noël. Parce qu'ils aimeraient bien, donc comme ils disent, c'est une cité pour donc Riperlin en italien, c'est une cité sans personnes extra-communautaires. S'en est suivi notamment parce que le mouvement squat italien et l'histoire de la résistance en Italie est quand même une longue histoire. Là, c'est clair que l'ultra-droite revient au pouvoir. Berlusconi leur a ouvert les portes, même si c'est un pantin qui est un bon portier. Et qui a fait quand même changer méchamment l'ambiance en Italie. À savoir que aujourd'hui, hier, il y avait la peur, celle qu'on connaît en France. Aujourd'hui, il y a la résignation, qui est un état encore un peu plus avancé du mauvais moment à venir. Il se trouve qu'il y a un mouvement squat et aussi des centres sociaux en Italie, qui est quand même assez historique et ancien maintenant. Et notamment, on s'en rappelle bien dans les époques des années 70, et notamment des résistances qui ont eu lieu dans ces périodes de plomb, et notamment de cet auto-allemand qui n'était pas en 45, mais en 77. Aujourd'hui, dans ce espèce de tout ce qui avait été accepté jusque-là, il y avait toute une partie de légalisation qui avait été mise en place, qui avait permis de pacifier. On l'a vu en Allemagne, on l'a vu en Hollande, donc dans les mouvements squat, effectivement, avec des systèmes de légalisation où ils achetaient les maisons occupées, et avec des espèces de compromis en disant, voilà, si vous entretenez le lieu, vous devez peindre en telle ou telle couleur, notamment pour un squat en Allemagne dont j'avais connu, ils avaient demandé, parce que c'était quand même la ville qui fournissait la peinture pour repeindre la façade, ils voulaient bien sûr du rouge et du noir, ils se retrouvaient avec du bordeaux et du gris. Ça donne à peu près, voilà, donc ces espèces de compromission avec la ville qui pacifie peu à peu. Aujourd'hui, il y a quand même quelques squats, et notamment à Turin, qui ont refusé de signer ces conventions et ces légalisations, mais qui ont quand même pour le coup perduré, des squats qu'on dit 15 ans, comme notamment le Barocchio, l'Asilo et le Passo, et qui jusque-là utilisaient ces lieux pour construire la contestation et la rébellion face à un État tous les jours un peu plus oppressant. Il se trouve que là, depuis quelques temps, une déclaration de guerre a été faite aux squatteurs turinois de la part des syndicatos et de la mairie turinoise, qui s'est dit, parce qu'à cause notamment des choses qui se passent dans les camps de concentration et de rétention organisés aujourd'hui contre les sans-papiers, des choses que, en toute bêtise, même on ne peut pas accepter, quoi, des choses qui se passent à nos portes, sous nos yeux, et qui sont dramatiques. Donc il y a eu un mouvement de contestation contre les centres de rétention, comme ça se passe en Belgique, comme ça se passe en Allemagne, comme ça se passe en Hollande, comme je l'ai dit, et comme ça se passe heureusement aussi en France. Et qu'ils en ont déduit qu'effectivement une grosse partie de cette contestation venait des squats. Et que là, ils ont dit, on les vire tous. Pas un, pas le plus virulent, pas le moins ci ou le plus ça, mais tous. Après cette déclaration officielle dans les médias, c'est clair que le mouvement squat italien s'est un peu mobilisé en disant, on peut pas ne rien faire. Et ont donc décidé, et aujourd'hui donc c'est un appel, à une grande manifestation contre ces éventuelles expulsions et surtout contre la militarisation de la ville et de nos vies. Pour l'instant, il semblerait que face à une éventuelle contestation qui sent venir, ils ont décidé de virer les squats peut-être plus un par un, au lieu de les virer tous d'un coup, parce qu'effectivement, ce sera peut-être pas si simple. Ce sera peut-être pas si simple. Donc, c'est un appel pour une manifestation qui a lieu le 19 décembre. On vous en parlera bien davantage d'ici là, où, effectivement, cette manifestation aura un sens différent si les expulsions ont déjà commencé ou si elles n'ont pas encore commencé. Je vais vous lire un texte qui est malheureusement que fraîchement traduit l'italien. J'ai peur que ça se ressente un peu, mais je vais vous le lire quand même. Il est très clair. L'appel à cette manifestation, en gros titre, c'est « Rester agité ». Cortège contre les expulsions et la répression. En réponse aux attaques continues des institutions et des médias contre tous les espaces réappropriés, nous descendrons dans la rue pour dire stop à un régime toujours plus opprimant et à une répression qui s'étend. Ici où la démocratie et la liberté se traduisent par CRA et militarisation de la ville, CRA c'est centre de rétention administrative, la sécurité tant évoquée crée un climat de terreur. Dans le même temps, les gens continuent à mourir, au travail par le chantage social qui les contraint à seulement survivre, en prison dans des conditions inhumaines ou dans la rue, de la main de la police. Au nom du progrès et de l'économie, notre santé est attaquée tous les jours par une infinie nocivité et nos pensées manipulées par les médias. Pour la réappropriation et la défense des espaces autogérés, et la liberté de tous les individus. Donc c'est un appel à venir donc à Turin, pour le coup de faire un petit voyage, dans ce beau pays qu'est l'Italie, le 19 décembre. Donc on vous redonnera plus précisément, c'est à 14h, piazza, machin, machin. On vous expliquera plus précisément à ce moment-là. J'aime bien prendre l'exemple de l'Italie, parce que comme je l'ai dit au début, c'est souvent ce qui nous arrive dans la gueule après. Pareil, j'espère pouvoir m'y étendre plus une autre fois. Quand on parle de fascisme, c'est pas trop l'école de Ndéchène, on va dire. On n'est pas des antifascistes, on est surtout des anticapitalistes parce qu'on se pense que ça ressemble beaucoup l'un à l'autre et l'autre à l'un. Petit frère des enculés. Et que là, quand même, ce qui se passe en Italie avec un retour vraiment flagrant de l'intelligentsia d'ultra-droite. À savoir que, comme en France, Berlusconi a réussi à se débarrasser, ses sbires, à se débarrasser du PS, à se débarrasser du PC, et tente bien aujourd'hui de se débarrasser de tout ce qui pourrait être la contestation. Pourvu que ça ne nous arrive pas, et pourtant, c'est
la même logique partout, parce que ce qui vient de se passer en Suède aussi, où les squats étaient légaux jusqu'à présent, donc il était tout à fait légal d'occuper des logements qui étaient vides, et il y a beaucoup de gens qui les occupaient, et aujourd'hui, par rapport à toute la politique de gentrification des villes et du business de l'immobilier, ils sont en train d'attaquer justement tous ces espaces.
Ras-le-bol des gauchistes, bordel.
Avec l'aide des gauchistes.
Non, mais enfin, bon, voilà, donc... Voilà, ça a été court, voilà, sur l'Italie, en disant on vous reparlera de cet appel-là, contre les expulsions des squats de Turin et la situation italienne qui, là, comme je disais, là, sur l'histoire de White Christmas, c'est quand même assez fort, quoi, dans le sens où eux, ils ont, pour cette petite ville, passé cette directive, cette loi particulière, donc, régionalement, à une seule ville, où eux, ils ont décidé que, voilà, pour Noël, il n'y aurait pas un arabe dans la rue et pas un noir dans la rue. Joyeux Noël.
Et maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'émission et à une petite musique introductive.
Radio Galère 88.4. Tous les jours 20 ans, 20 ans d'une vie d'emmuré vivant, où tous les jours cette même putain de nuit, et toutes les nuits ce même putain de jour. 20 ans, on n'a pas tous les jours 20 ans, 20 ans d'une vie d'emmuré vivant, où tous les jours cette même putain de nuit, et toutes les nuits ce même putain de jour. Avec toujours une porte de trop en plus, et tous les jours un jour de moins en plus, avec hier comme une éclat demain, et demain comme putain de refrain sans fin. Avec toujours une porte de trop en plus, et tous les jours un jour de moins en plus, avec hier comme une éclat demain, et demain comme putain de refrain. Et 20 ans pour ne pas avoir trop rêvé de devant un jour, peut-être la peur changer de camp. 20 ans pour ne pas avoir trop rêvé de devant un jour, peut-être la peur changer de camp. Ne pas trembler, mais rêver, ne pas trembler. 20 ans, on n'a pas tous les jours 20 ans, 20 ans d'une vie dans le monde vivant, où tous les jours cette même putain de nuit, où toutes les nuits ce même putain de jour. 20 ans, on n'a pas tous les jours 20 ans, 20 ans d'une vie dans le monde vivant, où tous les jours cette même putain de nuit. Avec toujours une porte de trop en plus, et tous les jours un jour de moins en plus, avec hier comme une éclat demain, et demain comme putain de refrain sans fin. Avec toujours une porte de trop en plus, et tous les jours un jour de moins en plus, avec hier comme une éclat demain, et demain comme putain de refrain sans fin.
temps pour ne pas l'attendre, mais me réveiller devant un jour, peut-être la peur, changer de camp. 20 ans pour ne pas l'attendre, mais me réveiller devant un jour, peut-être la peur, changer de camp. Ne pas trembler, me réveiller, ne pas trembler. Nous sommes accrochés en Natalie Ménégo, j'en suis prêt à mes 20 ans. Régis Léger à 23 ans. Ce n'est pas leur âge, mais leurs années de cage. Le temps fait des exemples. Ne pas nier, ne pas se renier, ne pas plier, ne pas se replier. Parce qu'il ne faut pas trembler, me réveiller. Ne pas nier, ne pas se renier. Ne pas plier, ne pas se replier. Ne pas nier, ne pas renier. Ne pas plier, ne pas se replier. Parce qu'il ne faut pas trembler, me réveiller, de voir un jour la peur.
Donc voilà, donc on est à la seconde partie de l'émission et en fait pour commencer, avant de donner la parole à Eliette, on va vous passer un petit montage qu'on a fait à partir d'une intervention d'une linguiste. Donc juste je rappelle peut-être avant, c'était quoi cette soirée qui avait lieu vendredi samedi à l'Équitable Café. Donc c'était une soirée pour lancer la campagne de libération des prisonniers d'Action Directe, parce qu'il reste encore Jean-Marc Rouillant et Georges Cipriani derrière les barreaux, et Régis Lécheur est encore en semi-liberté. Et donc pendant cette soirée, il y a une linguiste qui a fait une intervention où elle expliquait le processus mis en place par l'État pour essayer de vider le sens politique des actions d'Action Directe. Voilà.
Donc là aujourd'hui, Eliette m'a demandé de justement commenter en tant que linguiste ce qu'on pouvait dire sur ce qui se passait en ce moment à Action Directe et en particulier pour les prisonniers. Et donc moi, mon approche, ça va être une approche de linguiste, évidemment. Hein. Donc je vais resituer ça dans une histoire. Alors, en bonne universitaire, je vais vous faire un plan en trois parties, évidemment. Hein. Ça, c'était méthodologie dans la foulée. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je travaille tout le temps sur des données authentiques, donc sur des faits, pas sur des points de vue, j'essaye en tout cas. Donc il me semble qu'en ce moment, on se retrouve face à un phénomène où on a trois grandes stratégies de l'État. Donc la première chose qu'on remarque quand on regarde de l'extérieur, c'est qu'on s'aperçoit que l'État essaye de discréditer une pensée en la ramenant aux faits divers. Et c'est particulièrement flagrant quand on regarde par exemple l'émission de Christophe Ondelat, Faites entrer l'accusé, qui a été rediffusée un nombre phénoménal de fois, et il y a encore pas très longtemps, le 13 novembre, le 8 et le 13 novembre, et on a l'impression que ça ne tombe pas par hasard au niveau de la chronologie d'Action Directe, évidemment. Et donc on est en train de mettre sur un certain plan un certain type d'action politique en lui ôtant totalement sa substance idéologique. La deuxième chose, c'est qu'on va passer à la banalisation d'une action, parce que vous vous rendez bien compte qu'en mettant ça dans un programme de faits divers, c'est absolument pas au hasard qu'on met ça là-dedans. La semaine d'avant, c'était des serial killers, la semaine précédente, des violeurs d'enfants, etc. Donc il y a un étayage par le bas, et surtout, évidemment, il n'y a aucune analyse idéologique derrière. Évidemment, du coup, on va aussi banaliser un type d'action en la scénarisant. Donc là, je vous renvoie par exemple aux questions de l'Express de 2008 où on mélangeait tout. C'est-à-dire qu'il était aussi bien question du point de vue de Jean-Marc Rouillant sur le NPA, sur la lutte armée, etc., que de ses rapports personnels avec Nathalie Ménigon, que le rapport à Che Guevara et au t-shirt, etc., etc. Il y avait une espèce de méli-mélo dans l'interview qui a été fatale d'ailleurs, parce que Jean-Marc Rouillant répondait lui sur un plan politique systématiquement, alors que le journaliste l'attirait dans une interview type People. Même chose avec le travail de Christophe Ondelat récemment, enfin de 2004, mais rediffusé constamment, où on va vous raconter tout ça comme un nouveau feuilleton. On a l'impression d'être dans NCIS, les experts, on a une série de même acabit. Et puis alors récemment, j'ai appris, parce que je suis désolée pour les Marseillais, mais je ne suis pas Plus belle la vie, hein, donc vous allez me bannir, mais c'est comme ça. Mais on m'a rapporté qu'il y avait un nouveau personnage, une sorte d'anarchiste marionnette complètement manipulé par un gourou, Et donc, comme par hasard, ça tombe en ce moment, bien entendu. Et donc, on va avoir un complet brouillage du sens, et ça va s'exercer notamment par une nouvelle catégorie de discours politique sur, je cite, l'anarcho-autonome ultra-gauche, que ça fait pas sens, mais que c'est pas grave. On vous prend tout ça, on le mélange, on fait une grande enveloppe vide qui fait peur aux bourgeois, hein, pour résumer et revenir à un discours de classe du 19e siècle. Donc l'idée, c'est foutre la trouille aux gens sans avoir évidemment de discours politique sérieux derrière. Et donc là, on passe à la troisième sous-partie, c'est faire oublier qu'il y a un cadre théorique et politique global par rapport à un contexte historique précis dans le cas d'Action Directe, que c'est pas des actions qui sont totalement isolées dans un pays, mais au contraire, c'était un mouvement qui était international à l'époque. Donc là, évidemment, le travail de base, c'est ne pas resituer dans le contexte. On va juste rappeler qu'il y avait d'autres groupes qui faisaient la même chose, mais on dit absolument pas pourquoi. On va pas non plus rappeler les raisons théoriques du choix d'action. On va pas donner non plus accès aux textes de revendication des actions par le groupe même, parce qu'à chaque procès, il y avait des textes. Et bien entendu, ils ont totalement disparu, ils sont plus disponibles dans l'espace public pour qu'ils se fassent une opinion. Et on ne laisse plus la place du tout aux théories, juste à des faits, quelle que soit d'ailleurs la lutte de gauche, hein, ça va être tout le temps la même histoire, que ce soit les Conti ou les autres, toutes les luttes à l'heure actuelle sont ramenées purement à l'action. Ce qui veut dire, et ça va être ma deuxième partie si vous n'en avez pas encore marre, donc l'idée c'est qu'on va créer un ennemi politique intérieur. Et on va avoir des stratégies très récurrentes. Donc l'idée de créer un ennemi intérieur, c'est absolument pas nouveau. Et on a ça notamment pendant la Commune, à la fin de la Commune. Donc on va retrouver exactement la même chose. Quand je regarde la presse au sujet d'Action Directe, en particulier des femmes, mais pas seulement, je vais retrouver d'abord des descriptions terrifiantes. Vous allez avoir régulièrement, donc on a l'impression qu'ils mettent les mains dans le sang des victimes, qu'ils leur arrachent les yeux, etc. On vous reconstitue la sorcière, on vous reconstitue tous les ennemis intérieurs habituels. Donc, exactement comme pour les pétroleuses, hein. On va dépasser l'individu et on va créer un groupe de l'ombre assoiffé de sang. Chez Ondelat, il le dit carrément, hein. Le début d'Ondelat, c'est sur Nathalie Ménigon et Joël Aubron, je cite, les passionnariats du groupuscule gauchiste. Ensuite, vous avez une guerre sans état d'âme qui vient imposer la révolution dans le sang. Bon, là, c'est bon, hein. Alors, j'ai pas eu accès à toute l'émission, j'ai eu accès qu'aux quelques clips qui sont encore sur le site. Et c'est assez intéressant parce qu'évidemment, c'est ça qu'on veut qu'il soit retenu. Et évidemment, cette description, elle est là. Vous allez aussi avoir parallèlement, donc c'est plus des humains, on est dans le mythe surtout d'un combattant de l'ombre qui se cache, qui peut sortir, qui n'a pas d'âme. Donc la représentation classique du communiste avec le couteau entre les dents, on y est presque. Il frappe de manière aveugle. On a précisé là dans ce clip, là qui est en ligne, qu'il tue de sang-froid. Donc le sang-froid, c'est certains animaux. Vous avez exactement, vous avez plein de redondances par rapport à d'autres descriptions des âmes existantes historiquement. L'idée évidemment, c'est de faire monter la peur. Donc là, l'armée de l'ombre prête à revenir évidemment avec les communards. On constate que 20 ans après, au moment où l'amnistie commençait à ramener des communards déportés en Calédonie en France, vous avez une espèce, dans l'histoire de la Commune, il y a pendant la Semaine sanglante un déferlement de descriptions horribles des pétroleuses qui évidemment n'ont jamais existé. Maintenant, c'est attesté historiquement, hein. C'est clair et net, c'est une invention. Évidemment, c'est très gendré, c'est les femmes, c'est pas les hommes. Bref, je vous refais pas une autre conférence, mais on va, pendant les 20 ans qui vont, c'est les 10, 20 ans qui vont séparer le moment de la Commune, de la Semaine sanglante et le retour des amnistiés, on va avoir le maintien du mythe de la pétroleuse. Alors, c'est plus un lanceur d'alcool, c'est elle qui est alcoolique. Après, il y a des cas d'autocombustion, enfin, c'est du délire complet. Et on va avoir, au moment où elles reviennent, parce que c'est les femmes surtout, mais on va avoir tout un discours qui tend à dire « Regardez-les, ils sont partout, ils se cachent. » Là, on en connaît quelques-uns à visage découvert, mais derrière eux, il y a toute une armée de l'ombre, même en province. Ça, c'est très beau, le même en province. Comme s'il n'y avait pas eu de commune ailleurs qu'à Paris, n'est-ce pas ? Alors qu'il y en a eu plein ailleurs, évidemment. Et donc, vous avez exactement, là, j'ai l'impression en ce moment, la même chose, au moment où se pose la question de la sortie des prisonniers d'AD. On est en train de remettre au goût du jour toutes les fois, en fait, qu'il y a une procédure, si vous regardez la chronologie, toutes les fois qu'il y a une procédure de demande de remise en liberté conditionnelle ou en semi-liberté, systématiquement, vous ressortez de là. Il y a même un nouveau documentaire dont il a été question tout à l'heure sur Canal+, que j'ai pas pu voir. Mais on va vous ressortir à chaque fois les femmes assoiffées de sang, dangereuses, les hommes qui les manipulent, parce que ça, c'est évidemment la suite. Ça sera traité ensuite, évidemment, la manipulation. Donc, en gros, On réduit l'histoire aux faits et en plus on accuse les personnes qui accomplissaient ces actions de ne même pas être conscients de ce qu'ils faisaient vraiment, dans la mesure où là récemment, là j'ai trouvé dans l'Express du 8 au 14 octobre un texte que vous connaissez certainement, où on accuse Action Directe d'avoir été manipulée par l'Iran. Si vous regardez, on a la même chose sur la page Wikipédia, si vous ne l'avez pas encore vu, allez la lire, c'est édifiant. Concernant la RAF, on les accuse d'avoir été manipulés par l'Union soviétique via la RDA. En fait, en gros, c'est la même chose pour les pétroleuses. Quand on vous les décrit, c'est des femmes stupides qui n'ont absolument aucune idée de ce qu'elles faisaient, bien entendu, et qui ont été manipulées par des hommes, même manipulées par Dieu sait qui. Mais là, on a le même niveau, c'est-à-dire vous allez d'abord avoir les femmes manipulées par les hommes en interne du groupe, et ensuite ces hommes manipulés par des superstructures qui sont très dangereuses pour l'État français, et voilà, ça alimentera peut-être le débat sur l'identité nationale. Les pratiques du pouvoir, c'est très simple, et après j'arrête de vous embêter. On va vraiment avoir quelque chose qu'on pourrait résoudre par silence, on tourne. Hein, c'est... D'un côté, on va condamner, détenir, réduire au silence. Ça, c'est un vieux schéma de surveiller et punir depuis le début des siècles. Hein. Il y a, dans toute la justice, c'est tout le temps comme ça. Mais sauf que derrière, vous avez toute une idéologie chrétienne qui voudrait qu'il y ait réparation. Donc, on va condamner, mais la peine va laver le péché. On va détenir la parole et la personne. Mais au bout d'un moment, on va relâcher tout ça. Et puis, on va réduire au silence pendant un certain temps dans l'optique qu'il y ait repentir. Sauf que le repentir n'est évidemment pas une notion de droit actuellement, comme ça a été dit tout à l'heure très justement. Mais en même temps, on est toujours dans une idéologie judéo-chrétienne où chaque individu est responsable devant la collectivité, Dieu, l'État, qui vous voudrez du moment que c'est une superstructure, et doit regagner sa place dans la communauté en reniant ce qu'il a fait. Et là, il se trouve que le verrouillage est absolu, puisqu'il n'est pas possible ni de sortir, ni de parler pour ceux qui devraient faire acte de repentance. Et évidemment, il n'est même pas envisageable qu'ils puissent discuter en général de ce qu'ils ont fait. Ce qui veut dire que du coup, on passe à un verrouillage total des canaux de transmission de l'histoire. On va interdire un retour dialectique. Évidemment, là, il y a double peine, parce que pour un marxiste, interdire le retour dialectique sur l'action, c'est verrouiller aussi sa pensée politique complètement, puisqu'il y a analyse-synthèse, recul, analyse-synthèse. Là, le recul ne peut pas être pris. Et d'ailleurs, c'est ce qu'essaye de dire Jean-Marc Rouillant dans l'interview de l'Express. Quand on connaît un peu l'idéologie marxiste, c'est transparent. Évidemment, ce n'était pas le cas de l'accusation. Donc, l'histoire officielle n'est plus une histoire, ça devient la vérité. Il n'y a pas moyen de contre-argumenter, puisque prendre la parole, c'est se remettre soi-même dans une position d'interdit, on ne peut plus parler en fait, et du coup il va y avoir un monopole du discours d'un seul côté, un seul camp qui va du coup beaucoup parler, énormément parler, mais sans reconstituer la chaîne logique entre un choix politique, une histoire des luttes, une mise en place d'un vrai discours autour d'une action, l'action étant une conséquence et non pas la fin en soi. Alors que là, évidemment, avec le verrouillage, l'action, il n'y a plus qu'elle. Donc on est exactement dans ce que décrivait Debord avec la société du spectacle. Et on en arrive, alors on voit ça dans l'ensemble des luttes à l'heure actuelle. Hein. Bon, moi je vais tirer la couverture vers moi, mais le mouvement des chercheurs l'année dernière, quand il n'y avait pas des trucs spectaculaires, il n'y avait même pas 10 secondes à la télévision. Le mouvement en Grèce a été réduit vraiment à des images spectaculaires. Vous avez la même chose quand il y a des troubles en banlieue. Évidemment, on ne montre que les voitures qui brûlent, on n'entend jamais de discours politique autour, etc. Je peux en rallonger. Les mouvements en Europe, on n'est jamais au courant. Les grèves en Europe, on n'est jamais au courant. Même les grèves en France, on n'est pas bien au courant non plus de ce qui se passe. Du moment qu'il n'y a pas un fait divers, finalement, ça ne rentre pas dans la nouvelle façon de gérer l'information qui, en gros, s'apparente au publi-reportage. On a vraiment une mise en place d'un publi-reportage généralisé et donc, du coup, on transforme tout ça en feuilleton, en fait. On retombe dans le feuilleton, le grand guignol du 19e siècle, et on ne vous montre plus que des histoires. Donc c'est des histoires comme d'autres, finalement, du coup, ça explique pourquoi ça peut être chez Ondelat, et même dans Plus belle la vie. Donc il n'est plus possible d'avoir des relations causales et historicisées, il n'est plus possible d'avoir un recul, il n'y a plus d'idéologie, on n'arrête pas de fêter la fin du mur de Berlin, il faut voir aussi que c'est la fin des 10 idéologies quand les historiens de la philo en parlent, ils disent la mort des idéologies, le marxisme est mort avec le mur de Berlin, etc., etc. Donc du coup, on fait taire, en gros, on fait taire toute idéologie qui rentre pas dans les cases. Ne nous laissons plus.
NDChaîne 88.4 se déchaîne tous les lundis. Voilà, donc la situation, on va laisser la parole à Eliette, donc une invitée de choix, surtout parce qu'on l'a choisie.
Bon, on a donc fait cette réunion du 21 et on a évidemment parlé des camarades emprisonnés, c'est-à-dire Jean-Marc Rouillan et Georges Cipriani. Mais on a voulu prendre le sujet de la parole parce que la parole devient de plus en plus un crime, puisqu'on a enfermé donc Jean-Marc pour des paroles. Il n'est pas tout seul, hein, je veux dire, il y a bien plein de gens qu'on enferme pour des paroles. Maintenant, ça devient la mode. Et c'est pour ça qu'on a demandé à Dominique Lagorgette d'intervenir. On pense que il y a un terrain de bataille nouveau sur la parole et qu'il faut s'en emparer. C'est-à-dire non seulement parler, mais pas parler pour rien dire, bien sûr, mais parler pour raconter, pour expliquer les histoires qui s'effacent et la mémoire qui s'effrite. Évidemment que la parole ne peut exister que... Enfin, elle ne peut exister que pour expliquer soit une pensée, soit des actes. Et elle n'existe pas en soi. C'est pas... si elle ne dit rien de précis, c'est rien, quoi. C'est l'échange de Monsieur Bonjour, Il fait beau, et de la télévision. Mais s'emparer de la parole pour expliquer, pour écrire les explications, semble un crime aujourd'hui. Et il faudrait qu'on devienne des criminels, quoi, c'est-à-dire qu'on s'empare de cette parole. Bon, peut-être que nous, on a la possibilité de le faire. Jean-Marc n'a pas la possibilité d'expliquer son passé récent. Et enfin, récent, tout est relatif, hein, parce que depuis le temps qu'il est en prison, mais enfin bon. Et donc, puisqu'il ne peut pas le faire, peut-être que c'est à nous à expliquer ce qui s'est passé. On ne l'expliquera pas de la même manière, parce qu'on n'a pas les mêmes yeux. Et que même quand on a vécu les mêmes choses, on ne dit pas la même chose. On n'a pas les mêmes yeux, on ne vit pas la même chose. On n'a pas les mêmes sentiments, les mêmes sensations. Et la parole est toujours différente, même pour expliquer une même chose. Donc on ne peut pas parler à la part de Jean-Marc, mais on peut expliquer les choses qui ont eu lieu à ce moment-là avec nos yeux et avec notre parole, quoi. Donc je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire, pas toujours, mais à des moments précis, pour empêcher le silence de s'installer, pour essayer que notre présent, qui est le reflet du passé, puisse passer au futur. Bon, là, c'est à peu près tout sur la parole.
Ouais, enfin, juste ouais, donc pour dire, c'est ce qu'on a voulu, et on vous en avait parlé déjà la semaine dernière quand on, sur ce sujet-là, c'est que certains n'oublient pas d'ouvrir leur gueule et pour en raconter des belles, quoi. Et on nous les serre et resserre, comme elle en parlait, Dominique, donc la linguiste, à tout va, une espèce de falsification permanente et en plus immédiate, c'est quasiment à l'instantané, c'est-à-dire que même sur ce qui s'est passé, parce qu'effectivement, il ne peut parler, de son passé proche, c'est-à-dire de ses 25, 26, 27, 28 dernières années, et que même malgré tout, on nous falsifie même les dernières minutes, les raisons pour lesquelles il retourne, les raisons pour lesquelles... Enfin, le mensonge est installé d'une façon générale et raconter l'histoire autrement, c'est juste ne pas se la faire voler, quoi. C'est pour ça qu'effectivement on voulait axer ça sur ce sujet-là et notamment donc comme on a dit, c'est une campagne, c'est une nouvelle campagne, la Xème campagne, parce que les années passent pour leur libération, pour la demande de leur libération. Donc là, sur ce même sujet, ça va continuer. Donc ça a commencé à Marseille, ça va continuer. La mobilisation ne doit pas s'arrêter, parce qu'on l'a vu qu'effectivement, malgré toutes les bâtons et les chaînes qu'on nous met de tous les côtés, quand on se mobilise, qu'on bouge un peu, ça fait quand même un peu d'effet. Là, on peut juste dire pour le 21, on était content quand même parce qu'il y avait beaucoup de monde et que ce monde-là, c'est déjà en soi un argument, c'est déjà en soi peut-être une façon d'inverser un tout petit peu la peur, la crainte. Voilà, ils ont vu que sur ce sujet-là, qui était donc leur enfermement et leur histoire, bah, ça intéressait des gens. C'était pour certains, on n'est pas tous, on n'habite pas à Walt Disney, il n'y a pas que effectivement les trucs qui se passent dans Plus belle la vie qui nous racontent comment vont l'histoire, mais c'est effectivement les vraies histoires et donc celle d'Action Directe. Qui est quand même une belle histoire.
Quand même, on voudrait dire que cette parole, elle peut être prise par tous, c'est-à-dire qu'elle peut être prise par des personnes touchées et qui ne sont pas, qui sont pas d'accord obligatoirement avec les uns et avec les autres, c'est-à-dire qu'elle peut être défendue par des gens qui sont légalistes, qui pensent que simplement que il faut appliquer la loi. Et bon, cette loi a priori ferait qu'ils soient dehors tous, mais comme elle est interprétée par les uns et par les autres, ils sont pas dehors. Bon, donc on demande que tous parlent. Du moment qu'on va dans le même sens et qu'on demande la libération des gens d'Action Directe.
Voilà, donnons tous de la voix, mais pas dans les urnes. Hein. C'est pas un vote, c'est pas nos voix qu'on demande, c'est vraiment nos voix, ce qu'on a à dire, chacun ce qu'on a à dire. Moi, je voudrais profiter que tu sois là, Eliette, pour poser une question, parce qu'effectivement, Action Directe, il y a toutes les choses dont on parle, même si il est travesti et menti par la presse, les médias et tous les politiques. Il y a quand même aussi toute une autre période qui est celle qu'ils ont passée dans la prison, qui n'a pas été faite que de rien. C'est pas non plus une mort complète. C'est des gens donc pour les premières arrestations en 84, donc notamment de Régis Lecher qui est sorti il y a peu en semi-conditionnel et en semi-liberté et donc à la même époque de toi, Eliette, tu t'étais fait arrêter donc au même moment, au même instant. Et puis après, les arrestations qu'on suivit en 87, qui étaient celles de Jean-Marc, de Georges et de Nathalie et Joël. Et à partir du moment où ils ont été incarcérés, la lutte s'est pas arrêtée pour ces personnes-là. Ils ont continué à se battre en prison et dans un contexte évidemment complètement différent. On se rappellera notamment les premières grèves de la faim d'Action Directe, une qui a duré très très longtemps, laquelle tu as participé. Et il s'en est suivi aussi d'autres luttes sur les regroupements, sur la fermeture des QHS, sur les conditions de détention. Et j'aurais bien voulu que tu parles un peu de ce moment-là et des étapes qui s'en est suivies jusqu'à la solidarité d'aujourd'hui.
Voilà, je voulais dire aussi que quand Régis et moi nous sommes fait arrêter à Avignon, qu'il y a eu d'autres camarades qui se sont fait arrêter un peu plus tard aussi, et ce sont ceux du journal L'International, et qui sont sortis plus vite peut-être, mais enfin qui sont sortis
plusieurs années.
Il y en a qui ont fait d'ailleurs autant que moi, puisque moi j'ai pas fait beaucoup d'années, j'ai pris 6 ans, donc c'est pas énorme. Et ceux-là aussi ont participé à la lutte, à toutes les luttes qui ont eu lieu. Donc la première grève de la faim, c'est celle qui a eu lieu en 84, ou peut-être en 85, non, c'est en 84. J'ai pas la mémoire des dates. Et voilà, une grève de la faim, quand elle est faite tout seul, elle est certainement très difficile à faire. Il faut se faire entendre, c'est-à-dire que c'est au bout d'énormément de temps, certainement, qu'on arrive à se faire entendre. Bon, la nôtre était plus facile, parce que on la faisait ensemble, et que notre motivation était collective. On voulait être connus comme des prisonniers politiques, non pas avoir un statut de prisonnier politique, tout au moins... La première grève ne demandait pas ça. Mais on voulait être reconnus comme des prisonniers politiques. On voulait que l'État reconnaisse que dans ces prisons, il y avait des militants politiques, puisqu'il disait qu'il n'y avait que des droits communs. On était alors arrêtés sous le prétexte de l'association de malfaiteurs et non pas de terrorisme, comme aujourd'hui. Et on voulait aussi, même si on n'y croyait pas, être regroupés, non pas regroupés entre politiques seulement, mais regroupés par affinité. C'est-à-dire qu'il y avait des camarades qui étaient des droits communs, qui se sentaient proches de nous et qui pensaient que nous avions raison, que nos actions étaient bonnes et justes, et qui auraient voulu être regroupés avec nous. Et dans cette première grève, on avait pris en compte cette population d'enfermés qui nous était proche, et on demandait leur groupement général. Bon, une grève de la faim, c'est très divers selon les personnalités. C'est très très personnel. Il y a l'état physique de la personne. Il y a sa volonté et sa résolution. Il y a aussi un truc qui est complètement injuste. Il y a des gens qui ont faim et il y a des gens qui n'ont pas faim. Moi, je fais partie des gens qui n'ont pas faim. Quand je mange parce que je sais qu'il faut manger, ou alors parce que quelque chose me donne envie, mais j'ai pas faim. Donc, une grève de la faim, pour moi, c'est pas tellement difficile. La seule chose difficile, c'est au moment où on sent la fatigue envahir, qu'on commence à ne plus pouvoir bouger et que on sent la vie qui s'en va, quoi, doucement, quoi.
Parce qu'on n'oubliera pas qu'il y a quand même d'autres exemples ailleurs où des gens sont morts durant leur grève de la faim, notamment en Allemagne, avec Obermann. Voilà.
Et bon, cette première grève de la faim qui a duré quand même une cinquantaine de jours, en 45 jours officiels pour moi, un peu plus parce que j'arrivais plus à manger une fois que j'avais arrêté. Mais c'était pas de ma faute, je faisais pas la grève de la faim, la faim. Mais elle a été... elle n'a pas été mortelle pour aucun d'entre nous. On a été fatigués, on n'a pas été nourris de force. Voilà, juste moi, j'ai eu des injections de force, quoi, parce que j'étais un peu plus faible que les autres, puisque j'étais plus âgé que les autres, et donc il a fallu m'injecter, je sais pas, du sucre ou je ne sais quelle connerie. Bon, le retentissement d'une grève de la faim dépend de ceux qui sont dehors et non pas de ceux qui sont dedans. À l'intérieur, on avait eu la chance d'avoir beaucoup de droits communs qui avaient pris parti pour nous et qui ont fait la grève de la faim en même temps. La grève de la faim a commencé à Fleury Femmes, et les femmes ont commencé cette grève aussi. Elles voyaient leurs amis, elles avaient, celles qui avaient le droit de voir leurs amis à Fleury Hommes, leur en ont parlé. Et les hommes, c'est bien connu, elles détestent que les femmes fassent un truc un peu spectaculaire sans eux, donc ils se sont mis en grève de la faim. Et cette grève a fait boule de neige. Elle a gagné toutes les prisons de France avec des revendications un peu différentes dans chaque prison. Et ça a fait un mouvement réel, quoi. Bon, toutes les grèves de la faim qui ont été faites par Action Directe n'ont pas eu ce retentissement. Ils ont des fois eu beaucoup plus de retentissement dehors parce que après. Nous qui étions tombés avant et qui n'avons pas pris perpète, on était dehors et on a servi de caisse de résonance en demandant aux camarades autour de nous d'être solidaires, etc. Et bon, à ces moments-là, la solidarité s'est fait très très active et très forte, mais elles n'auraient pas eu de retentissement. La nôtre, au départ, n'a eu de retentissement qu'à cause de la prise de possession de cette grève par tous les droits communs dans toutes les prisons. Donc ça n'était plus seulement une grève de la faim des politiques, mais une grève de la faim de tous les prisonniers. Bon, il y a eu, en dehors de ces grèves de la faim, il y a eu d'autres modes de lutte, disons précisément par les gens d'Action Directe, parce qu'évidemment, il y a eu d'autres modes de lutte à laquelle les gens d'Action Directe ont participé, mais qui étaient déclenchés aussi par tout le monde, quoi. Par les droits communs ou par les politiques et les droits communs. Enfin bon, la différence, quand t'es en prison, la différence est pas très...
Plus que mince, il pourrait même y avoir un seul mot pour ces deux catégories, ce qu'on appellera les prisonniers rebelles.
Voilà. Seulement, le problème des politiques, c'est que, qu'ils soient rebelles ou non, même s'ils sont... Je veux dire, s'ils sont simplement arrêtés pour des raisons politiques et qu'ils ne sont pas particulièrement rebelles, ce qui est arrivé quand, au début, il y avait des camarades qui se sont fait arrêter, qui sont sortis de prison parce qu'en fait, ils n'avaient rien à voir avec Action Directe. Et ben quand même, ils étaient des politiques et donc ils avaient droit à l'isolement et à toutes les merdes que peuvent avoir les prisonniers politiques ou les prisonniers rebelles. Ceux-là, ils n'étaient pas rebelles. Ils étaient à peine politiques. Ils étaient politiques, c'est-à-dire parce qu'ils avaient donné un coup de main à des politiques, des fois par amitié, par sympathie, par... bon, on ne laisse pas des gens qui risquent de se faire arrêter dans la merde. Voilà, simplement un réflexe humain qui devrait être général et qui est exceptionnel. Donc tous ces camarades-là, je les remercie fortement. Et bon, c'est vrai que c'est tellement rare qu'on peut les remercier, quoi. Donc, toutes ces luttes-là, toutes ces luttes surtout de grève de la faim, ont été différentes. C'est-à-dire, il y a eu des grèves de la faim complètes. Et puis, plus tard, bon, moi, j'étais dehors et les camarades ont décidé une grève de la faim tournante. C'est-à-dire que ça, y en a un qui commençait pendant je ne sais plus combien de jours, disons 8 jours, et l'autre prenait la suite, etc. Bon, donc ça tournait. Ça a l'air de rien, et finalement c'est plus, je crois que c'est plus fatigant qu'une grève complète, parce que dans une grève complète, on arrive à un moment où on est tellement épuisé que on se demande si vraiment, on va finir comme ça, quoi, on va mourir, et puis voilà. Et comme on a décidé de ne pas manger, ben voilà, on va mourir. Il y a une accoutumance à ne pas manger. Alors que 8 jours, puis paf, on s'arrête, et puis paf, on reprend, c'est très fatigant, et je pense que c'est encore plus fatigant pour l'organisme. Bon, il est évident qu'on a eu des séquelles après ces grèves de la faim, bon, différentes pour chacun et pour l'autre. Pour chacun d'entre nous, mais bon, voilà. Et puis, il y a eu des espèces de luttes bon, que tout le monde fait dans le style. On pose des demandes de conditionnel, on pose des demandes de liberté tous les jours ou presque, quoi. C'est-à-dire, dès qu'on a un refus, on la repose, etc. Parce que s'ils répondent pas, ben. On nous fait sortir. On peut toujours essayer.
On a toujours dit, on peut essayer.
Ça n'a pas marché, hein. Bon, mais on a essayé.
Ouais, après, il y a les méthodes de lutte. C'est pour ça aussi que je posais cette question. C'est parce qu'effectivement, il y a la résistance en prison, elle n'est pas vaine. Et donc, encore une fois, nous, on en fait largement l'apologie. Et donc, à tous les prisonniers rebelles, et on les soutient pour ça aussi, il y a les grèves de plateau, les refus de retour en cellule, les des mouvements,
les mutilations, les trucs comme ça, bon, c'est...
Ouais, mutilation c'est autre chose, mais les choses qui peuvent à peu arriver des fois jusqu'à des mutineries, bon, on connaît.
Ouais, mais même les mutilations peuvent arriver jusqu'à des mutineries, parce qu'au moment des parloirs sans séparation, les prisonniers, en tout cas les prisonnières, je sais, ont fait la grève ont fait des grèves. Ils sont arrivés dans la cour, ils ont refusé de remonter et ils se sont mutilés. Et ils demandaient les parloirs sans séparation. Et ça tournait plus à la mutinerie qu'au martyr. Ça dépend comment c'est pris, quoi. Et il y a eu aussi pendant cette période-là des protestations, c'est-à-dire des gens restant dans la cour et sautant d'une cour à l'autre, en tout cas chez les femmes ça s'est passé comme ça, en tout cas, et puis monter sur les toits, voilà, bon, C'est évidemment, tout le monde ne participe pas à ces luttes. Mais à Fleury, par exemple, celles qui n'avaient pas le courage d'y participer ont été très solidaires, puisqu'elles lançaient dans la cour des couvertures, de la bouffe, des trucs comme ça. Et donc, bon, même si elles le disaient, on n'a pas le courage de rester dans la cour, mais voilà, on vous donne un coup de main, quoi. Et donc, a priori, la solidarité était réelle en prison. Je sais qu'il y a des gens qui vous diront le contraire et qui vous diront que c'est assez rare, la solidarité en prison. Moi, je n'ai assisté qu'à des actes de solidarité. C'est-à-dire quand on a décidé la grève de la faim, il y a eu de nombreuses prisonnières qui ont fait la grève avec nous. Et une grève de plateau s'est déclenchée assez énorme à Fleury. Elle a duré peu de temps, mais elle s'est déclenchée par solidarité avec ceux qui s'arrêtaient de manger. Bon, il est évident que nous, on ne demandait pas des choses que pour les politiques, mais qu'on demandait aussi des choses d'une manière générale qui pouvaient servir à tous les prisonniers.
Bah, le parloir sans séparation, la fermeture des quartiers d'isolement, de haute sécurité, choses qui concernaient tout le milieu carcéral. Voilà.
Puis après, des petites choses qui sont des trucs pratiques dans la vie, c'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, les gens qui avaient fait de la prison et qui étaient sortis n'avaient pas le droit de revenir voir leurs amis en prison. Et on a demandé que ça soit différent, qu'à partir de ce moment-là, les gens qui sortaient puissent revenir voir leurs amis. Et ce qui a été fait, quoi. Bon, après...
avec une porte d'entrée et de sortie, c'est avec des permis de visite. Hein, parce qu'on,
c'est ça.
En général, on est toujours invité à revenir.
Oui, mais là, avec un permis de visite. Bon, après ça, c'est sûr qu'il y a eu des trucs délirants et drôles. Il y a eu des gens qui ont fait des demandes invraisemblable. Moi, je connais quelqu'un qui a demandé à avoir du cirage vert en prison parce que ses chaussures étaient vertes et qu'elle n'arrivait pas à les rendre
vertes. Et donc, du coup, c'est elle qui était verte.
Voilà. Mais bon, avec tous les à côté, moi, je pense qu'il y a eu une solidarité réelle et que. Quand on dit qu'il n'y a pas de solidarité en prison, c'est peut-être possible au jour le jour, mais quand il se passe quelque chose d'important, je crois que la solidarité se déclenche.
Donc voilà, vous avez vu qu'on a largement occupé l'heure suivante, parce que c'est l'occasion d'un témoignage que nous on considère comme rare. Effectivement, Eliette, on le sait que depuis que tu es sortie, tu te bats pour la libération des militants d'action directe et que tu n'as pas aménagé ni tes mots ni tes peines. Mais effectivement, comme elle l'a expliqué au début, dans les yeux de chacun, dans le cœur de chacun, ça reste un peu différent. Et on a besoin de l'histoire en entier. Aujourd'hui, on a entendu Eliette. On aurait bien voulu, et on est bien content, en tous les cas, tous les gens qui sont venus samedi, écouter Jean Alphen, qui a aussi lui fait 10 ans de prison pour participation donc à Action Directe, et qui nous manque, même si Jean-Marc Rouillant a écrit de fort jolis livres. Et même Régis, il nous manque cette parole de cette histoire. À savoir, pour revenir encore sur la parole, c'est qu'effectivement, une fois que tu as pris perpétuité, même si tu as dépassé ta peine de sûreté, même si tu as obtenu une conditionnelle, au moins ce que tu as pris à perpète, c'est fermer ta gueule. Et ça, dans les luttes d'aujourd'hui, elles sont à mener pour qu'il n'y ait pas de double, de triple, de quadruple peine, quoi. À savoir, quand je dis la première peine, c'est être condamné. La deuxième, c'est d'en passer la moitié à l'isolement. La troisième, c'est d'être maltraité encore plus. Et la quatrième, c'est en plus d'être obligé de fermer ta gueule jusqu'au bout. Quand t'as largement dépassé ta peine de sûreté, quand on citera pas les quelques crapules qui arrivent à sortir à mi-peine, je souhaite la prison à personne. Voilà, j'espère que... Là, bon, inévitablement trop court, mais c'était beaucoup moins court samedi. Merci encore à tous ceux qui sont venus ce samedi-là et qui nous écoutent en plus encore aujourd'hui. Merci à toi, Eliette. Merci à tous ceux qui sont venus. Même merci à ceux
merci
qui sont
à tout le monde.
Pas venus. Merci à tout le monde.
Et voilà. Merci à ceux qui sont de l'autre côté de la vitre.
Voilà. C'est là, ici, c'est un parloir avec séparation. Il y a un verre entre la technique et le local. Voilà, ND Chen. lundi prochain, encore une fois, moi je sais pas, d'autres conclusions. Moi je redirais bien ce petit texte, après 21 ans de prison et 10 mois de semi-liberté, Jean-Marc Rouillon retourne à la case départ, un mot de trop, un mais de trop, mais des mois en plus. Aujourd'hui malade, il y crève dans le silence. Après 22 ans de prison, sans aucun jour de liberté, Georges Cipriani reste à la case départ. Il ne dit pas ce qu'on attend de lui. Et aujourd'hui, il y crève dans le silence. Régis Schlecher, après 22 ans de prison, travaille dehors et dort dedans, dans le silence. Nathalie Ménigon souffre dans le silence. Ils ne diront pas ce qu'on veut leur faire dire et ne peuvent pas dire ce qu'ils voudraient dire. C'est le silence de la prison, la prison du silence. Alors si quelques-uns tentent d'écrire une histoire sans témoin, d'autres témoins entendent bien raconter l'histoire. Parole directe, solidarité carcérale.
Solidarité
et,
active.
Et défense active. Et peut-être on est déjà un peu sorti du silence et... Et voilà, si Anne Deschenard va participer à ça, c'est déjà, pour notre part, on trouve ça, c'est énorme.
Et que le fil rouge reste incandescent.
Voilà. Et moi, je ferai une spéciale dédicace à Jamel, je sais que t'es au placard, au Beaumet. J'espère que les auteurs ne contesteront pas, parce que je voudrais pas te faire des problèmes. Mais je pense à toi. Tchou tchou et solidarité avec tous les prisonniers.
Personne et on me traite de hyène sur toutes les ondes hertziennes. On se moque de mes œdèmes et de mes états d'âme. Tout m'ordonne en fait de ne pas vivre à l'état d'homme. Et moi que l'on nomme l'individu bas de gamme, qu'on me dégomme sur le macadam serait le minimum. Je sais, je traîne, je sens, je gêne. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. Ma tête mêlée, ma peau est peine. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. La arme est dans mon sang, mes peines. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine. J'habite au loin, en zone urbaine. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine.